Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Comme Zizou dans la pub Volvic, c'est chaque jour les mêmes gestes, les mêmes mots. D'abord, je salue chaleureusement les auditeurs d'Europe 1, comme s'ils débarquaient en même temps que moi, sans aucun égard pour l'émission d'avant, celle de Mélanie Gomez. Puis je vous annonce une nouvelle édition de l'équipée sauvage, cette émission si subversive qu'elle ose mêler humour et journalisme, qui vraiment en 2020 est un pari fou, presque kamikaze. J'enchaîne sur une première vanne, généralement la plus forte, mes acolytes rient. Ils sont payés pour ça. Puis j'annonce l'invité qui, même s'il se dit intérieurement
« ça risque d'être long, non ?»
ne peut que rigoler avec nous s'il veut pas passer pour un rabat-joie dans la twittosphère. Il me reste alors que prendre ma respiration avant de me lancer dans mes 42 pages de texte, en espérant que mon réalisateur, qui a pris 10 ans en 6 mois, arrive à lancer correctement les 82 sons décalés que j'ai préparés, afin qu'aucun moment de flottement ne vienne troubler la dynamique bien huilée de notre émission. Pas aujourd'hui. Car aujourd'hui, ouais, on va justement nous interroger sur cette course au rire perpétuel, thème du livre passionnant de notre invité, qui un jour, sur une radio concurrente mais néanmoins amie, s'est permis d'arriver à l'antenne, les mains dans les poches, sans fiche, ce qui ne se fait pas dans nos métiers, provoquant la sidération de ses collègues et son licenciement dans la foulée. Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour et merci de m'accueillir. Donc vous n'avez rien fait, vous promettez que vous n'avez pas préparé du tout.
Presque. Je ne peux pas le promettre. On va parler de votre dernier roman, L'homme qui pleure de rire, sur la couverture en guise de titre d'ailleurs, un simple émoticône, bonhomme qui rit de biais, parce que rire de biais c'est encore plus fort sur l'échelle du LOL dans les émoticônes.
Oui.
Ma première question est celle que je me suis posée en refermant le livre, Frédéric. Était-ce vraiment volontaire de vous saborder comme ça à l'antenne, ou bien c'est a posteriori, en écrivain, que vous avez réussi à transformer cette petite débâcle en projet artistique?
Non, je pensais sincèrement que c'était une extraordinaire idée, une expérience à tenter absolument d'aller à la radio dans une matinale sans n'avoir rien foutu. Et évidemment, bon, ça n'a pas été très concluant. Du coup, il a fallu que j'essaie de me rattraper en écrivant un roman.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est et ça. Le roman est très réussi, donc merci à cette chronique ratée.
Ah bah voilà, c'est ça.
Évidemment. Alors, on va parler de ce livre et aborder en long, en large et en travers toutes les idées extrêmement intéressantes que vous y développez. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, comme nous en avons convenu en préparant cette émission, c'est une équipée sauvage déstructurée, conceptuelle, qui nous attend. Une déconstruction qui commence par la présentation de l'équipe. Là aussi, on va déroger à nos petites coutumes. D'habitude, histoire de chauffer la salle, je présente toujours Eva Rock, mon souffre-douleur, comme une journaliste érotomane conçue à l'arrière d'une baraque à Soka du Vieux-Nice. Et je prends un malin plaisir à lui imaginer une vie nocturne délurée où elle irait d'orgie en orgie en s'exclamant:
qui c'est qui vient mettre ses doigts?
Non, ce sera ma dernière concession à la potagerie obligatoire. La France doit
c'est une
savoir
honte.
La France doit savoir qu'Eva est une personne admirable à la moralité irréprochable. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu.
Est-ce que vous nous parlerez un petit peu de télé tout à l'heure, ou est-ce que
non,
on va faire exploser le conducteur aussi?
On fait exploser le conducteur et j'ai juré de ne pas rire de toute l'émission.
Mais à quoi allez-vous servir durant cette émission alors?
Bah, rien, comme d'habitude.
Ça va être...
ça c'est le truc qui ne changera pas.
Oh, une petite balle dans le pied. Tout à l'heure, Eva, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou pas, si tel est votre plaisir.
Ouais.
Une chose doit demeurer néanmoins, le concept compétitif de notre émission. Chaque après-midi, Frédéric, les auditeurs et l'invité votent pour le journaliste qui a proposé la meilleure chronique. Si aucun n'a proposé de bonne chronique, on tirera à la courte paille. Face à vous, nos deux premiers concurrents. À ma gauche, j'aurais pu vous opposer un journaliste littéraire qui ait détesté votre livre. J'ai fait le choix moins courageux d'appeler Nicolas Carreau. Un type complètement fan de vous et surtout de votre dernier roman. Sa critique a même été reprise en pub par votre éditeur. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Alors donc,
je suis très impressionné.
Oui, vous avez, oui. Mais ne faites pas votre midinette, vous nous donnerez quand même une analyse de ce livre.
Oui, enfin, je vais surtout vous expliquer pourquoi Frédéric Becbédé est un grand écrivain.
Ok, super. Vous prenez tous les risques. Il prend tous les risques.
Vous allez encore dire que je cherche les poils, mais c'est vrai.
À ses côtés, Frédéric, les apparences sont parfois trompeuses. Il est l'expert sport d'Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors, comme Frédéric a connu quelques excès dans sa vie, vous nous proposez aujourd'hui un petit programme de remise en forme. On va notamment enfin savoir combien on perd de calories selon l'activité sportive, y compris le sexe, m'avez-vous dit.
On va brûler des calories tout en se consumant d'amour. Ça vous dit, on a choisi de rebondir sur un passage de votre livre, Frédéric Becbédé. On fera une analyse complète, calorie par calorie.
De Frédéric Becbédé ou de... de la société française en général.
Pourquoi pas, s'il veut vraiment s'impliquer dans la chronique, qui, je l'avoue, aujourd'hui est un peu orienté sexo.
Ah oui, ça vous ressemble bien. Le programme est donné, même s'il y a de fortes chances pour qu'il ne se déroule pas comme prévu, puisqu'avec Frédéric Becbédé, on a décidé de saborder l'équipée sauvage comme les pirates dans Astérix, leur propre bateau.
Europe 1. L'équipée sauvage.
Sommes-nous les prisonniers d'une dictature du rire? C'est la question que pose notre invité Frédéric Becbédé dans son dernier roman L'homme qui pleure de rire aux éditions Grasset. La réponse que vous y apportez, c'est la vôtre ou c'est celle d'Octave Parango, votre personnage, ou les deux se confondent totalement?
Disons que quand j'écris sous le masque d'Octave Parango, je peux aller encore plus loin. Et donc oui, j'avais envie de crier mon inquiétude, ma révolte devant cette obligation, cet impératif du LOL. Et puis donc voilà, donc c'est peut-être assez extrême, de même que quand je critiquais la pub ou le mannequinat, j'essaie d'analyser un problème. Et il me semble qu'il y a, c'est un problème nouveau, c'est quand les comiques ont pris le pouvoir. Ils ne sont plus les bouffons du roi, ils sont devenus les rois et ils sont le discours central de notre époque.
On a l'impression que pour vous, l'humour a cessé d'être subversif quand il est devenu global. C'est-à-dire que l'esprit canal était subversif et puis quand tout le monde finalement dans la société a eu l'esprit canal, eh bien, du coup, l'humour
devient l'esprit banal.
C'est l'esprit banal.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, c'est ce que j'appelle l'humour pas drôle. Quoi, voilà, quand l'humour est permanent, obligatoire, du matin au soir, on ne rit plus, on est simplement fatigué.
Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec vous, au sens où la professionnalisation de l'humour fait qu'effectivement, il y a de l'humour toute la journée, avec des professionnels de l'humour, mais dans cet enchaînement de vannes, tout ça, il y en a quand même certaines qui sont vannes. Il peut y avoir quand même quelques moments réussis.
Bien sûr, oui.
Parce qu'on a l'impression que là, vous dénigrez tout en bloc.
Non, mais ce que je regrette, c'est effectivement que ça soit devenu comme des fonctionnaires du rire, qui ont des techniques, qui font leur métier.
Qui sont des artisans plus que des artistes, en fait.
Exactement. Et si on reprend l'exemple des Césars, la personne la plus marrante, c'était pas un humoriste, c'était Emmanuel De Vos, qui a dit un truc vraiment original sur si vous n'avez pas de César, votre vie est finie. Et je trouvais que ça prouve quelque chose. C'est que tous les professionnels, finalement, font des petits sketchs dignes d'une soirée au Club Med. Alors que la seule personne vraiment humoriste, vraiment originale et surprenante, c'était une actrice.
Je suis d'accord sur le fond, mais après, il y a aussi une question de talent. Il y en a qui ont besoin d'écrire un peu avant des trucs. Ça vous paraît moins bien, mais c'est leur... Ils sont obligés de faire leur métier.
C'est bien.
J'essaie de les défendre.
Non, c'est bien de défendre votre corporation.
Défendre ma corporation. Vous aimez rire, lui aussi, mais pas tout le temps. Frédéric Becbédé passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Alors bon, normalement, là, Frédéric, c'est le teasing, ce moment de vide radiophonique qui n'est en fait qu'une pub de ce qui va venir après la pub. Et vu que ce qui vient après la pub aujourd'hui, c'est la critique dithyrambique de votre livre par Nicolas Carreau et que vous militez pour un retour de la franchise et de la sincérité à l'antenne, je crois qu'on peut y aller franchement. Un invité qui reluit est un invité ravi. Pour faire reluire votre invité, choisissez les cirages Carreau, un brillant à nul autre pareil. À côté, le cirage Drucker paraîtra bien terne. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Se cultiver sans pour autant se démettre en neurones, vous écoutez l'équipée sauvage, une émission élaborée aujourd'hui à l'aide du chapitre intitulé « Technique de la chronique humoristique » par Octave Parango. Dans le dernier roman de notre invité Frédéric Becbédé. Entre nous, je fais ce métier depuis une dizaine d'années Frédéric, je peux certifier, tout est vrai dans ce guide. Prenons au hasard la règle numéro 4, trouver une musique ou une archive à rediffuser. Le fond musical permet de meubler votre néant et de mettre un peu de dynamisme dans l'émission. Je vous présente Nicolas Carreau, notre expert littérature. Bon, ça meuble. Côté dynamisme, en revanche, j'aurais ajouté, attention, évitez le générique de Bouillon de Culture, ça plombe. Nicolas, vous avez lu L'homme qui pleure de rire, le roman de Frédéric Becbédé. Vous l'avez même encensé. Qu'est-ce qui vous a tant plu ?
Alors, je mets déjà mon chronomètre parce qu'on m'a dit la chronique ne fait que 2 minutes 30 aujourd'hui.
Nous voilà encore dans un carcan.
Ouais. Alors, vous m'avez dit, on reçoit Frédéric Becbédé. J'étais un peu fébrile. Je me suis dit, il faut vraiment que je travaille cette chronique. Donc, je me suis dit, et surtout, je vais chercher les points. Donc, je vais parler de la fêlure, The Crack-Up, la nouvelle préférée de Frédéric Becbédé, écrite par Fitzgerald. Et puis, bon, finalement, je me suis dit, voilà, il est là, autant parler de lui un petit peu. Et je me suis dit, je vais faire comme lui plutôt, comme c'est un de mes modèles. Je vais faire une chronique à la Becbédé. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'audace à la radio ? C'est effectivement...
Le silence.
Le silence.
C'est la plus grande audace qu'on peut avoir en
voilà,
radio.
Mais vous voyez, vous n'y arrivez même pas. Vous êtes obligé de parler tellement c'est malaisant. Et de toute façon, on ne peut pas sur Europe 1 parce qu'au bout de 30 secondes de silence, ceci se déclenche.
Vous écoutez Europe 1, la suite de nos programmes dans un instant.
C'est un secours, un disque de secours, c'est vrai en plus.
Alors, on va pas le tenter. Hein.
Eh ben, j'ai fait une chronique sur Becbédé. Il me reste plus qu'une minute trente. Ah, c'est vrai que ça va vite. Pourquoi Becbédé est un grand écrivain ? Pour 5 raisons. D'abord, raison numéro 1, il est clivant. Et ça, pour moi, c'est une des caractéristiques d'un grand écrivain. D'ailleurs, regardez, prenez toute la liste. Houellebecq, hyper clivant. Céline, hyper clivant. Dumas, Hugo, maintenant hyper consensuel.
Ah oui.
Mais à leur époque, hyper clivant, bien sûr. Hugo, il faisait de la politique. Dumas, il était complètement défoncé par toutes les critiques littéraires.
Ah, j'ai eu peur.
Il faut être clivant quand on est écrivain parce qu'on dit quelque chose. Et donc, il faut être un peu radical dans ce qu'on dit. Et tout, si un écrivain plaît à tout le monde, c'est juste, comme on disait tout à l'heure, un artisan qui écrit des bonnes histoires et qui plaise à tout le monde. Mais il faut être un peu clivant si on veut être un grand écrivain, c'est-à-dire si on veut parler de son temps et marquer son temps littéraire. Raison numéro 2, Frédéric Becbédé, tout le monde ne le sait pas, mais il a, et ça fait partie des caractéristiques d'un grand écrivain, il a une culture littéraire très très impressionnante. Il connaît tous les écrivains américains, tous les écrivains français 19e, 20e. Il a écrit d'ailleurs un livre dont j'oublie le nom, mais il va m'aider, ses derniers inventaires
avant liquidation.
Et c'est tous ses romans préférés, mais ce sont des analyses littéraires très très intéressantes. Ça, c'est très important, puisque un écrivain qui n'a pas lu, pour moi, ça ne peut pas être un grand écrivain. Il faut s'inscrire dans une tradition littéraire. Et pour ça, il faut la connaître, cette tradition littéraire. C'est le cas de Frédéric Becbédé.
Stop.
Raison. Oui, attends, juste.
On s'en fout, Eva. Qu'est-ce qu'on a dit au début de l'émission?
Oui, il a dépassé.
Raison numéro 3, il faut être drôle. Et Frédéric Becbédé est drôle.
Oui, c'est le paradoxe du livre.
Oui, ouais. La première phrase du
c'est
livre.
C'est l'échec de ma vie.
La première phrase du livre: je m'appelle Octave Parangot et j'ai 74 ans dans 20 ans. Moi, je trouve ça drôle. Raison numéro 4, Frédéric Becbédé est fragile, malgré ce qu'on peut penser de lui. Quand vous le lisez, Frédéric Becbédé n'est pas sûr de lui, jamais, pas du tout. Il parle de sa famille dès que possible, qui est un indice pour dire qu'il se raccroche à quelque chose de familier. Et puis, lisez surtout, pardon, je vais très vite, Windows on the World, où toute la fragilité de Becbédé vous éclate à la figure. Et voilà, ça fait. Et raison numéro 5, il fait voir, et c'est la plus importante, il fait voir le monde différemment et tel qu'il est dans L'homme qui pleure de rire. Il parle des gilets jaunes et de tout ça. Il parle de son temps, de son époque. Il a parlé de la pub, de l'entreprise. Il vous fait voir le monde différemment. Et c'est ça la marque d'un grand écrivain. Il faut toujours terminer avec une citation d'Oscar Wilde. Et je pense que Becbédé a mis du génie dans sa vie et du talent dans son œuvre.
Là, je pense qu'on peut pas faire plus flagrant.
Ah, voilà.
Mais en même temps, c'est juste. Et j'ajouterais même, alors qu'on est déjà très très loin sur l'échelle de la flagornerie, j'ajouterais un sixième point. Vous l'avez vaguement évoqué, mais moi, ce que je trouve aussi le point commun des très grands écrivains, Houellebecq, Romain Gary, dans un autre genre, c'est cette capacité à être très brillant, faire une démonstration très brillante, et en même temps se dénigrer soi-même, ce qui fait qu'il nous embarque. Houellebecq fait souvent ça quand il décrit une scène un peu dégueulasse. Il dit, mais en fait, je suis un gros dégueulasse. Et vous faites pareil. Vous ne dites pas les gens sont pas drôles, l'industrie. Vous dites que vous y avez participé. Et quelque part, vous avez été aussi un illusionniste. Vous utilisez ce terme à l'époque où vous travaillez dans la communication.
Oui, parce que je trouve que c'est intéressant de partir de sa propre expérience pour critiquer d'abord soi-même, puis les autres. Et au fond, là, je suis pas seulement fragile, je suis quelqu'un de nul, de faible, de ringard, de has-been, de vieux, de...
Oui, mais en l'auto-analysant comme ça, vous en dédouanez quelque part, ou vous passez au-dessus.
C'est-à-dire que
vous n'êtes plus ringard.
Moi, j'aime bien Octave a été très arrogant à une époque, dans les années 80, quand il était concepteur-rédacteur, il était un peu sûr de lui. Et je trouve que c'est plus émouvant que 30 ans après, on le retrouve errant sur les Champs-Élysées entre le Fouquet's en feu et le Four Seasons avec des shots de vodka et des prostituées moldaves. Voilà, je trouve que cette espèce de contradiction et d'homme errant à la surface d'une planète incompréhensible, c'est mon projet. Voilà, c'est mon projet, c'est ça. C'est pas seulement de dénoncer un rire obligatoire qui n'est pas drôle. C'est d'essayer de trouver un sens à cette époque qui n'en a plus.
Frédéric Becbédé aura-t-il le toupet de voter pour un chroniqueur qui s'est employé à le présenter d'une manière presque gênante comme un génie? Le connaissant,
il peut le faire.
Europe 1. Encore un teasing. Oh, aidez-moi en mettant au moins un tapis musical adapté. Voilà. Bon, alors là, je dois vous vendre l'idée, pourtant séduisante en soi, de rester avec nous pour écouter la suite de mon interview de Frédéric Becbédé. Alors, il y aura des questionnements sur le carcan du rire, des interrogations métaphysiques, mais rassurez-vous, entre deux citations de philosophes, on évoquera aussi les passages coquins du dernier Becbédé. Ça vous dit, Eva?
J'arrive tout de suite.
Magie du racolage, elle s'est réveillée. On en parle juste après un titre qui peut être un détail pour vous, mais qui pour notre invité veut dire beaucoup. Il nous dira pourquoi après. Tiny Dancer, Elton John sur Europe 1. Tiny Dancer, c'était Elton John sur Europe 1, une chanson qui donne des petits frissons à notre invité Frédéric Becbédé, pas vrai?
Oui, c'est vrai, c'est une chanson sur laquelle j'ai un souvenir romantique avec mon épouse. Et chaque fois que je l'entends, je suis amoureux.
un cœur bat derrière ce fiel. Frédéric Becbédé est notre invité. Vous avez révélé que pour écrire, vous aimiez écouter de la musique, spécialement la bande originale d'Indiana Jones, signée John Williams. Moi aussi, sauf qu'étant moins riche que vous, j'écoute une version libre de droit. Ce qui explique peut-être que vous avez eu le prix interallié et pas moi. Frédéric Becbédé est notre invité exceptionnel cet après-midi pour une émission qui ne l'est pas moins, puisqu'on va un peu où le vent nous porte, afin justement de dénoncer la dictature du rire, cet impératif du lol dont vous parlez. Vous dites, aujourd'hui, la drôlerie est obligatoire, les présentateurs plaisants, les hommes politiques badinent, les chauffeurs de taxi galègent, même les pilotes d'avion tentent des annonces comiques au micro. C'est très vrai ça, même dans l'avion maintenant, notamment sur EasyJet. En fait, il y a toujours une blague.
Il y a un humour de fond comme il y a des musiques d'ascenseur. C'est-à-dire qu'on est obligé tout le temps de faire des vannes. Et malheureusement, tout le monde n'est pas votre niveau. Oh, c'est ça le problème.
Et il y a aussi le problème pour les politiques. C'est-à-dire que même les politiques, pour être pris dans les JT, il y a toujours dans les discours une petite blague. Et ça, vous dénoncez un peu ce mélange des genres. J'ai entendu Edouard Baird le dénoncer aussi, ce mélange des genres.
Il y a aussi d'ailleurs un prix de l'humour politique on commence à voir que les hommes politiques ont l'ambition eux aussi de recevoir le César de la meilleure plaisanterie. Et ça va aussi loin que maintenant, dans des grandes démocraties, des clowns sont élus. En Ukraine, Vladimir c'est Zelensky, en Italie, Beppe Grillo. Donc tout ça est assez incroyable. C'est que dans ce vide de la pensée politique ou de l'incarnation, il y a une place et tout d'un coup un boulevard pour des comico-populistes qui désinguent tout mais ne proposent pas grand-chose. Et c'est pour ça que c'est doublement flippant. C'est flippant parce qu'on ne s'amuse pas à entendre toutes ces blagues à répétition. Mais en plus, elles sont en train de détruire la démocratie. Je vous souhaite une excellente après-midi.
Sur Europe 1, Frédéric Becbédé, notre invité.
Europe 1.
À suivre. Ah, cette petite sonnerie me rappelle que c'est l'heure du running gag. Oui, règle numéro 3 du guide de la chronique humoristique par Octave Parango. Prévoir un running gag, le comique de répétition fonctionne toujours en radio. Préparez-vous donc pour ce qu'on appelle en interne notre running gag d'info. Désolé d'avance, Eva. Dans un instant, Jérôme Lacroix va nous dire combien on brûle de calories en fonction de la discipline sportive qu'on pratique, y compris le sexe.
Ah ouais.
Ah, c'est tout pour
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et pourtant, aucun son décalé, aucun extrait de film ne va venir perturber ce lancement. Ça vous étonne, hein ?
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Ah, on se fait pas si facilement, désolé. Frédéric Becbédé nous accompagne cet après-midi pour parler de son dernier roman, L'homme qui pleure de rire, dénonciation virulente et paradoxalement drôle, on le disait, de la tyrannie du rire dans les médias. C'est donc un plaidoyer pour l'impro, la spontanéité, le lâcher prise au micro. Bref, vous auriez adoré, Frédéric, ce moment où l'année dernière, Eva a essayé, je dis bien essayé, de désannoncer Jérôme Lacroix sans lire ses notes.
Merci beaucoup, c'était le Jérôme des sports de Jérôme Lacroix.
Le Jérôme des sports de Jérôme Lacroix. Un très beau Jérôme, très complet. Jérôme Lacroix, on parle sport avec vous cet après-midi.
C'était avant la matinale, vous imaginez, on est encore en plein sommeil. C'était normal que je me...
C'est vrai qu'on
plante.
Faut que vous disiez que vous êtes des êtres humains.
Voilà, c'est ça.
Ça, je crois que les gens s'en rendent compte. Ils voient vite nos limites. Jérôme, vous nous parlez de sport aujourd'hui.
Cette citation... tous les médecins disent qu'il faut exercer une activité physique régulière pour se maintenir en bonne santé. Une heure de sexe journalier équivaut à une heure de jogging ou de natation en moins chiant. On est page 132 de votre livre, Frédéric Becbédé.
Très bonne page, la page 132.
Et le passage a intrigué, bien sûr, Eva Rock, qui m'a tout de go invité à un fact-checking. Alors, alter ou missionnaire, gainé ou copulé, sport ou sexe, quel est le plus vorace en calories ?
C'est ce que vous m'avez demandé, arrêtez. C'est ça. Alors, on va l'argumenter. J'ai pas parlé de position.
Non, mais qui vous dit que je vais en parler ? D'accord. Si, je vais en parler. Alors, que nous dit la science ? Quand elle fait l'amour, une femme brûle près de 3 calories par minute. Un homme.
C'est rien.
Ah, c'est rien du tout.
Un homme en brûle 4. Alors, pour que ce soit très concret, pour nous les hommes, en 6 minutes, on brûle donc 24
calories. Comment ça en 6 minutes ? Mais parlez pour vous, mon vieux. Ne nous incluez pas avec Frédéric dans votre statistique minable.
Tout ça sont des chiffres en moyenne, évidemment. Alors sur cette base, par rapport à ce que vous disiez, une heure de jogging ou de natation, c'est l'équivalent. On est entre une bonne marche et le jogging, quoi. Voilà, c'est à peu près ça qu'on dépense en faisant l'amour. Mais moi, j'ai voulu, juste comme ça, vous donner quelques petits tuyaux pour perdre plus de calories en faisant l'amour, l'utile, l'agréable, tout ça. Alors, savez-vous que c'est possible dès les préliminaires ? Un petit truc. Un striptease, par exemple, c'est 60 calories au moins.
Minimum. Là, c'est pour la femme, généralement.
Mais nous, pas du tout. Pas du tout.
Oui, non, mais non, j'ai dit généralement, c'est comme moyennement. Maison, c'est enfin, bon. Généralement.
Vous pouvez aussi, c'est tout bête, créer un jeu de passage à l'acte. Faites courir votre partenaire dans l'appartement. Je me cache. Si tu me trouves, tu me fais ça. Et si tu me trouves pas, je suis dans le placard. Tout ça, tout ça.
Alors, Jérôme, vous avez complètement pété les plombs, j'adore ça.
Vous êtes en train de parler un peu de votre vie privée.
Sous couvert de nos informations.
C'est la seule question à laquelle j'avais dit que je ne répondrais pas. En prime, ce petit exercice, en plus de faire perdre plus de calories, ça fait travailler le cardio, très important. Alors pour le fond de la chose, quand on passe à l'acte, le sexe debout, c'est plus énergivore, sachez-le, dans des lieux a priori inconfortables, une table, des escaliers, en tout cas tout sauf le lit, voilà. Et puis sachez-le aussi, il y a des petits trucs tout bêtes auxquels on ne pense pas. Certaines positions, voilà, vous y pensez, on peut parfois se retrouver avec face à soi un mur, et bien pensez à poser les mains, à poser les mains devant sur le mur. Et là, alors là, triptyque gagnant, vous avez tout gagné. Vous travaillez les épaules, les biceps et les triceps.
Et les triceps, bien sûr.
N'est-ce pas ? C'est très important. Précisons aussi que l'orgasme, chez l'homme comme chez la femme,
ah là, on perd des calories.
Eh ben non, ça brûle pas particulièrement.
Ah non, c'est la déception.
Je suis désolé. Bah.
Alors pour les femmes, ça sera pas trop gênant.
Bon, voilà.
Qu'est-ce que c'est que cette attaque ?
C'est... Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je vous regarde.
Et en plus, vous regardez comme si nous avions l'habitude de pratiquer ce genre de choses ensemble. Comment votre proche ?
On s'égare. Pour tenter de conserver un semblant de dignité, je dois quand même vous dire plus sérieusement, les meilleurs, les vrais sports pour brûler des calories, sans surprise, les sports d'endurance, les vrais, on reste dans le thème, hein, course à pied, cyclisme, voilà, ça peut monter jusqu'à 1000 calories en moyenne pour une heure, encore plus que la natation. Et puis alors le top qualité prix, une bonne vieille corde à sauter, jusqu'à 900 calories pour 5 à 7 euros minimum.
Voilà. Et est-ce qu'on peut faire l'amour en faisant de la corde à sauter ? Ça, c'est une question que vous développerez pour votre prochaine chronique, Jérôme Lacroix.
J'ai l'image. Vous
ça se transforme
l'image.
En bondage tout de suite. Hein.
Mais c'est ça.
Ouais, voilà. Pardon, mais...
On sent les experts. Hein.
Non, pas du
on
tout.
Embrasse Elsa, votre délicieuse compagne, qui nous écoute probablement.
Moi aussi, je cherche à l'embrasser, mais je cours après des clubs.
Vous la trouvez jamais après. Dans votre livre, mon cher Frédéric Becbédé, Octave dit « Je fais du sport une heure par semaine, mais mon corps ne se muscle pas. Je mange sans grossir, je fais du gainage sans durcir. Les années passent, la mode change, moi pas. » Il y a du vrai là-dedans.
Oui, oui. C'est triste parce que j'ai vraiment un coach sportif, mais ça n'a pas d'effet. Ça
mais
n'a
vous
pas
êtes filiforme, vous, de toute façon.
Oui, mais ça, justement, j'aimerais être plus baraqué. J'aimerais avoir des gros bras.
Frédéric, ça ne vous irait pas du tout d'être baraqué. Ça ne va pas du tout. Non, vous êtes un dandy, vous avez votre style filiforme. Mais pour rentrer dans vos beaux costumes, vous n'allez pas devenir musclore.
Vous n'allez pas devenir un Mathieu Noël. Mathieu Regardez, Noël. Il va à la salle depuis 2 ans. Oui, il ne rentre plus dans ses suites.
Mais... Oui. Bon, je vous remercie, Eva, pour ce petit tac. Il a une minute complètement inattendu. Voilà, c'était notre page sport spécialement pour Frédéric Becbédé.
Europe 1.
Dans un instant, au-delà du quiz, certainement un coup de foudre en perspective. Entre notre invité Frédéric Becbédé, le dandy qui écoutait Can't Fight This Feeling en cachette, et notre chère Eva Rock qui, dans sa pratique de l'humour, fait voler en éclats cette bien-pensance que Frédéric dénonce dans son livre en osant rire de tout, comme nous le découvrirons dans un extrait gratiné de l'émission d'hier, avant le montage évidemment.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'ironie est mon gagne-pain, mais comme j'ai aimé son dernier roman qui en dénonce les ravages, j'ai décidé sciemment de me tirer une balle dans le pied. Frédéric Becbédé, notre invité cet après-midi, pour évoquer son livre « L'homme qui pleure de rire », qui dénonce donc, on en parle depuis tout à l'heure, l'humour obligatoire partout dans les médias. L'humour est une sorte de coronavirus vicieux dont le symptôme est a priori positif, donc on s'en méfie pas. Sauf que vous écrivez « Nous nous tournons vers les blagues pour échapper à nous-mêmes. L'humour est censé alléger cette réalité déprimante, mort et impôts. Je suis d'accord pour dire que l'ironiste se moque de tout pour éviter de devoir dévoiler ce qu'il en pense, rien. Et ça, je trouve ça très bien vu.
Ça me fait, je ris à mes propres horreurs. C'est affreux. Mais c'est vrai. C'est pas moi qui ai inventé ça. Le premier à avoir dit ça, c'est Étienne de la Boétie dans le discours de la servitude volontaire, où il explique qu'en gros, les divertissements, les balles, les clowns permettent de maintenir le peuple dans son asservissement. Et à l'époque, c'était bien plus grave qu'aujourd'hui, mais c'est la même idée. Si vous voulez, on fuit nos problèmes dans ce rire permanent. Et c'est pas au départ le rire, on avait tendance à croire que c'était une manière de critiquer les puissants. Mais aujourd'hui, comme les puissants sont impuissants, eh ben, ce sont les comiques qui sont devenus puissants. Je ne sais pas si c'est très clair, parce que c'était un peu une sorte de
syllogisme. C'est plus clair dans le livre. Achetez le livre. Achetez le bouquin chez Grasset. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez comme alternative ? Parce que moi, je suis d'accord sur l'analyse, mais le rire, on dit souvent que c'est aussi une soupape de sécurité dans nos vies quotidiennes, quand on fait un métier qui n'est pas forcément très drôle, avec un patron chiant, je pense à Eva, par exemple. Comment il faut quand même avoir une soupape,
sûr,
et donc l'humour peut servir à ça, qu'il soit brillant comme avec Edouard Baird ou moins qualitatif quand on n'a pas ce talent-là, mais c'est quand même sympathique de plutôt rire que de pleurer. Quoi.
Mais évidemment, bien sûr. C'est simplement, peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire du matin au soir, du soir au matin. Peut-être qu'on peut aussi, de temps en temps, faire des programmes où on émeut les gens, où on est sincère, où on parle comme ça, très, très calmement, de sa mélancolie. Des trucs où on se met à bâiller, à rendre les armes, à démissionner.
Une émission littéraire, quoi.
Oui.
Il se tacle lui-même, lui. Nicolas Carreau, tous les samedis.
Dimanche, merci, tout monsieur. La... Mais avant, c'était le samedi. Ça
mais c'est pour ça, c'est qu'avant, c'était le samedi. J'ai été piégé. Alors, nous touchons là un point de désaccord fondamental entre nous, mon cher Frédéric Becbédé. Oui. On peut faire n'importe quoi, on peut déstructurer l'émission, mais il y a une chose à laquelle on ne peut pas toucher, c'est le quiz. Frédéric Becbédé, pour le duel qui vous oppose à Eva Rock, vous allez devoir reconnaître justement des professionnels de l'humour à ceux qui ne le sont pas. Principe simple, je vous donne des citations, plus ou moins drôles, à vous de me dire si on les doit à des humoristes ou pas.
Ah, oh, c'est horrible.
Eva Rock, on commence avec vous.
Oui.
Comme c'est horrible, on commence avec vous. On a quand même pas pris la baisse. On
a quand même. C'est un peu le même principe que les grosses têtes.
Hein. Oui, c'est ça. Voilà.
On les embrasse d'ailleurs. On a quand même pas pris la Bastille pour en faire un opéra. Humoriste ou pas humoriste?
Ça me fait pas trop rire. Hein. Donc ça va être un humoriste.
Bonne réponse, Emma. Ouais. Vous allez vous fâcher avec les plus grands puisque c'est une citation de Pierre Desproges. Ouais. Frédéric Becbédé, l'inverse de l'humour, ce n'est pas le sérieux, c'est la soumission. Humoriste ou pas humoriste?
Non, c'est pas très drôle. Non, c'est une pensée. C'est un aphorisme d'un philosophe, je ne sais pas.
Oui, j'aurais répondu exactement pareil, sauf que parfois les humoristes jouent aussi les philosophes. C'était Guy Bedos.
Ouais.
Oui. Vous dites, page 90 de votre livre, Frédéric Becbédé, « Le regard ironique sur le pouvoir prend le pas sur la vérité de l'analyse du pouvoir. Il nous fait accepter notre infériorité avec un sentiment de supériorité. »
Oui, mais je suis d'accord avec ce que j'ai écrit.
Vous êtes d'accord avec vous?
Oui, c'est-à-dire que c'est comme une vengeance. C'est une vengeance. Alors, on croit que c'est sain de se venger du pouvoir, mais en réalité, c'est une vengeance d'impuissants. Presque comme une scène de jalousie que nous faisons envers les puissants. On serait incapable de faire ce qu'ils font, et donc on leur tape dessus toute la journée. Au départ, c'était sain, bien sûr que l'idée est saine, mais quand ça devient constant, à chaque minute de la journée, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui déconne. C'est ce qu'on appelle infotainment, le mélange de sérieux et d'humour. Finalement, l'humour détruit le sérieux. Et donc moi, je suis un vieux baba cool, en fait. Je suis pour qu'on revienne aux 60s, 70s, les hippies, les baba cool, peace and love. Arrêtez de faire des blagues. Arrêtez de croire que vous êtes obligé de dire du mal de tout le monde pour être aimé. Non, pas besoin.
Je ne dirai plus que du bien. Des varocs. On me fait signe que nous n'avons plus temps pour le quiz. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'était plus intéressant que le quiz. Donc, on s'en fout. Avançons.
Europe 1.
La séquence qui suit. N'ayez pas peur, Frédéric. Ce n'est que le teasing de votre chronique. Ah. Oui, une petite surprise. Frédéric Becbédé n'est pas venu les mains vides comme il le faisait à l'époque sur France Inter. Il est venu les mains pleines d'une chronique qu'il a concoctée spécialement pour nous.
Et
à
on
tout
ne
de
le
suite.
Savait pas.
Après, une chanson importante également pour Frédéric Becbédé. Wish You Were Here, Pink Floyd sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Frédéric Becbédé est notre invité. Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de rire, d'infos, mais aussi d'émotion au son de Pink Floyd cet après-midi. Ça vous remue, Pink Floyd, Frédéric?
Oui, c'est les paroles aussi. La mélodie est très belle, mais les paroles, j'aimerais que tu sois là. Et donc je pense, évidemment, quand je suis à Paris, je suis sans ma famille. Et dès que j'entends ces mots, je suis... tourneboulé, je suis ému.
Et parce qu'il faut préciser que vous n'habitez plus à Paris,
oui.
Vous habitez au bord de la mer.
Depuis 3 ans, j'ai quitté votre belle ville. Et voilà. Et alors donc, vous m'avez.
Et oui, c'est le moment où vous m'avez dit que vous avez préparé quelque chose. Alors, je trouve
alors
ça incroyable.
On vous avait rien demandé, hein, on est d'accord.
Vous n'attendez pas là-dessus et vous avez préparé quelque chose, ça nous honore.
Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ma tête va être mise à prix après ça. Je m'en fous parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je pense que je peux être sincère. La cérémonie des Césars a confirmé, de façon particulièrement répugnante, tout ce que je dénonce dans mon livre sur le rire dictatorial. Une soirée qui devrait être un hommage au cinéma est devenu un festival de stand-up pitoyable, une meute de hyènes en roue libre. Chacun y est allé de son sketch pas drôle, comme dans un spectacle du Club Med. Où est passé le cinéma? Cette pauvre Florence Foresti, qui s'est fait connaître par des imitations costumées chez Ruquier, se prend désormais pour une grande intellectuelle, obligée de dispenser son opinion sur le bien et le mal. Elle plaisante sur la taille de Polanski pour l'enfoncer en son absence. La même tête de Turc pendant 3 heures. Elle ne connaît rien ni au cinéma ni au droit pénal, mais on lui confie le pouvoir et elle s'en sert avec une violence absolue. Le tribunal fédéral suisse a jugé que Polanski avait purgé sa peine. Florence Foresti et Adèle Haenel s'improvisent juges. Sont-elles plus compétentes pour dire le droit que le tribunal fédéral suisse, juridiction suprême de la Confédération helvétique ? Elle se dit écœurée, elle est écœurante. La bien-pensance est une intolérance. Comment expliquer à une comique professionnelle que le grand art se situe par-delà le bien et le mal ? Que signifie cette blague ? J'accuse, un film sur la pédophilie dans les années 70. C'est une plaisanterie ? J'accuse est le titre d'un article d'Émile Zola qui dénonçait une injustice, comme Voltaire lors de l'affaire Callas. En réduisant J'accuse au casier judiciaire de son réalisateur, ce qu'elle ne fait pas avec Lajli, Florence Foresti ne se rend même pas compte qu'elle reproduit l'injustice de l'affaire Dreyfus. Elle condamne 50 ans après les faits, considère que de nouvelles accusations, prescrites et non prouvées, suffisent à juger un homme sans avocat. Elle reproduit la tragédie que raconte Polanski.
Frédéric, belle chronique, mais qui n'engage que vous, ouais. Effectivement. Il y a des éléments que je trouve justes dans ce que vous dites. Néanmoins, on ne peut peut-être pas ne pas se soucier de la douleur des femmes. Je suis sûr que d'ailleurs que si vous continuez à parler là, vous évoqueriez Adèle Haenel.
On peut se lever dans une salle et ne pas être d'accord sur ce qui se passe.
Roman Polanski a réalisé les deux plus grands films sur l'antisémitisme, qui sont Le pianiste et J'accuse. Ils sont, à mon avis, meilleurs que La liste de Schindler de Spielberg ou que La vie est belle de Benigni. Donc pour moi, ce sont des films vraiment très importants sur ce sujet. Or, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme en France ? C'est une horreur qui a donné ensuite l'exécution, l'extermination, la torture et des centaines de milliers de viols de femmes juives dans les camps de concentration. Donc, quelque part, se lever au moment où on couronne un film là-dessus, c'est aussi...
Mais là, vous parlez de l'œuvre, pas de l'homme. Adèle Haenel se lève contre le film qu'elle a peut-être aimé.
Si on veut défendre la cause des femmes violées, des centaines de milliers, voire des millions de femmes ont été violées dans les camps. Et c'est le sujet de J'accuse et du pianiste. Et donc, à mon avis, ce cinéaste est celui qui a fait les plus grands films là-dessus. Voilà, donc c'est pas... C'est un peu gênant de se lever au moment où on couronne un film sur ce sujet. Et moi, je pense que la cérémonie du César, c'est sur les films. C'est pas là pour juger les auteurs.
En 2020, la société ne raisonne plus comme ça. Frédéric Bébédé, la société ne dissocie plus l'artiste de l'homme. Et donc, tout ce qu'a fait l'homme, ce qu'il aurait fait, doit impacter sa carrière. Les gens ont envie de ça. C'est ça qui vous choque, c'est ça qui vous révulse.
Moi, je suis cinéphile. Je regarde le travail cinématographique. Je ne m'improvise pas magistrat, ni juge, ni policier. Quand on est dans une cérémonie de ce genre, on juge des films, et c'est tout ce que je voulais dire.
Et alors, sans aller jusqu'à faire des sketchs contre Roman Polanski, si vous aviez présenté la cérémonie des Césars, vous n'auriez fait aucune allusion aux faits qui sont reprochés à Roman Polanski, vous auriez distribué les Césars sans faire la moindre remarque sur le mouvement de libération de la parole des femmes et de ce qui lui reprochait à Roman Polanski en tant qu'homme. Vous trouvez qu'on a chargé la mule ? Ou vous trouvez qu'aucune allusion n'aurait dû être faite à ça ?
Trois heures dans le même sens et en ignorant le sujet du film me paraissent une injustice. Mais je n'aurais jamais accepté de présenter les Césars.
De toute façon,
je suis beaucoup trop lâche.
Ne se pose pas. On vous a entendu, Frédéric Becbédé. Europe 1. C'est généralement le moment de l'émission où l'invité réalise qu'elle ne dure pas une heure, mais deux.
Et c'est terminé ?
Non, c'est la moitié de l'émission.
Ah oui ! Bon bah très bien.
Je dois donc redoubler d'inventivité pour l'inciter à rester. Eh bien, Frédéric Becbédé, puisque dans votre roman vous dénoncez les ravages de l'humour sur commande, je m'y engage. Pour cette deuxième heure, aucun gag préparé à l'avance et aucune vanne écrite en amont. Ok, Eva ?
Vous savez que le nerf optique, c'était le nerf le plus long dans le
corps. Non, Eva, stop ! Pas de blague !
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
L'heure de la mi-temps a sonné pour nos journalistes en compétition. Compétition un peu particulière cet après-midi, vu que notre invité Frédéric Becbédé jouera probablement son vote à pile ou face. Deux nouveaux concurrents vont néanmoins nous rejoindre. L'un va nous livrer la chronique larmoyante sur la disparition des oiseaux et des cachalots que Frédéric appelait de ses voeux dans son dernier roman. L'autre tentera de l'amadouer en lui parlant d'un film qui a marqué sa vie, Barry Lyndon. Alors évidemment, on va en parler dans un instant. Évidemment, c'est votre personnage Octave Arango, de plus en plus désabusé, qui parle. Mais lorsqu'il dit, vers la fin du livre, alors qu'il regrette d'avoir participé à ce totalitarisme humoristique qu'il dénonce désormais, lorsqu'il dit, je cite, « C'est fou comme la paternité transforme les gens. Je suis devenu un millénial. Le cynique veut à présent changer le monde. C'est un peu tard. C'est comme si le chanteur des Ramones reprenait des titres d'Anne Sylvestre. » Il y a de vous aussi là-dedans.
Oui, je sens bien que c'est un peu absurde. Et d'ailleurs, ça m'a été reproché dans quelques articles sur mon livre. je dénonce toujours ce que je suis.
C'est ce que vous avez été en tout
cas.
Oui,
je parle de ce que je connais, donc je raconte ma vie, je raconte les expériences professionnelles que j'ai traversées. Et souvent, on me dit, oui, alors tu craches dans la soupe et tout ça. Pour moi, c'est très important d'avoir du matériau pour documenter les romans. Je trouve que, voilà, écrire ce livre de l'intérieur, c'est plus intéressant que de simplement de critiquer quelque chose auquel on n'a pas participé, quoi. Donc j'espère que dans ce livre, on apprend aussi comment fonctionne cet humour permanent. On voit les techniques, la méthode de travail et aussi le désespoir, l'angoisse que ça représente. C'est vrai. Je vois que là, vous souriez, mais vous êtes heureux que je dise enfin la vérité, à savoir que c'est l'enfer de faire ce métier. L'enfer.
Non, c'est pas l'enfer, non. Mais c'est vrai que les techniques du chroniqueur sont très, très justes.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures où d'ordinaire le journalisme le plus rigoureux fricote avec le rire le plus grivois, voire lui roule de grosses galoches d'ordinaire. Car aujourd'hui, sous l'impulsion d'un grand auteur contemporain, nous avons décidé de nous remettre en cause, de réfléchir à ce mélange des genres que nous pratiquons quotidiennement et qu'il dénonce dans son dernier
roman.
C'est
une honte.
C'est un scandale. Frédéric Becbédé est venu siffler la fin de la récré sur Europe 1. Ensemble, nous feuilletons son dernier roman. En guise de titre, un simple émoji, celui de l'homme qui pleure de rire, qu'on envoie tous 10 fois par jour à nos proches pour résumer une pensée complexe qui, d'ailleurs, à force d'être résumé par des émojis petit singe honteux, aubergine, diablotin en rut, risque d'être de moins en moins complexe. Vous trouvez qu'on vit une période de décadence intellectuelle, Frédéric Becbédé ?
Je ne sais pas. Je trouve que les intellectuels ne pensent peut-être pas assez le monde de façon globale, et le vide qu'ils laissent offre une place aux humoristes qui deviennent finalement les intellectuels.
C'est encore les humoristes, mais c'est encore, oui, les humoristes qui sont la cause de tout.
Oui, parce que vous voyez très bien que beaucoup d'humoristes se prennent pour des philosophes et disent, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal.
Ça, c'est les humoristes qui, à la fin de leur chronique, se permettent une petite sortie avec un bon message.
Ils deviennent militants, ils deviennent engagés. Et pourquoi pas, c'est très bien, mais...
Ça a toujours existé, oui, Guy Bedos s'était engagé.
Sauf que, comme les intellectuels ont un peu démissionné, qu'il n'y a plus vraiment de promesses, d'idéal ou d'utopie proposé au peuple, eh bien, on se retrouve à blaguer tout le temps dans le vide, et ou alors à ce que des gens qui ne sont peut-être pas compétents pour être vraiment des grands politiques fassent de la politique. Et c'est ça que je dénonce, en fait. C'est plus la honte que j'ai de mes collègues et moi-même de ne pas avoir proposé une alternative au monde actuel.
Un regret, finalement, de votre propre vie.
Oui, parce que à force de nihilisme, de pessimisme confortable, nous avons une responsabilité, en fait, dans ce qui ne va plus dans le monde. C'est trop facile de s'exonérer tout le temps de ses responsabilités, de dire « je suis un artiste, donc je suis en dehors de tout ça ». Non, on aurait peut-être, ma génération a une responsabilité aujourd'hui. Vivre dans la dérision permanente, ça, c'était une forme d'immobilisme.
On continue de parler de votre roman « L'homme qui pleure de rire ». Je cède néanmoins quand même au protocole en vous présentant nos deux derniers concurrents du jour qui vont croiser le fer pour la prestigieuse couronne en carton de chroniqueur du jour. J'aime bien les présenter sur une musique d'Ennio Morricone qui donne une couleur à la fois dramatique et kitsch à leur combat. En cela, je me réfère au point numéro 13 de la technique de la chronique humoristique par Octave Parango. Je cite « Une fois que tu as trouvé un système qui marche, ne plus innover, mieux vaut user jusqu'à la corde un concept efficace que d'être créatif et de risquer le bide. Dont acte, voici Mathieu Charrier et Anne Le Gall. » À ma gauche, vous dites, Frédéric, qu'il faut toujours prévoir un petit propos engagé et conclure sur un message, voilà, de paix universelle. Elle est clairement là pour ça. Elle est la bonne conscience d'Europe 1. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour Frédéric, bonjour à tous. J'aime cette petite flûte.
Vous êtes l'expert environnement d'Europe 1. Vous avez lu le roman de notre invité et vous avez décidé d'exaucer son rêve, celui qu'il formule, page 223.
Voilà, page 223, Octave Parango rêve de mettre fin à la dictature du rire par une chronique, je cite, d'une mélancolie épouvantable qui raconte la disparition des oiseaux et des cachalots. Alors on va faire ça, parce qu'Octave a raison, et je rigole pas du tout, les oiseaux et les cétacés ne vont pas bien du tout. On va en parler.
Pardon, on rigole comme des baleines.
Voilà.
Oh, oh, humour.
On va en parler et on va même leur donner la parole.
Non,
à ces animaux.
Pas écrit, je te rassure quand même. Non, mais c'était pas écrit.
Vous avez même pas entendu la fin de la phrase de Anne.
Oui, mais on s'en fout, c'est le teasing, on va l'entendre tout à l'heure, Anne.
Oui, on va entendre les animaux, surtout on va leur donner la parole, ils le méritent.
Donner la parole aux animaux, ça va faire rester les auditeurs.
C'est beau.
À ses côtés, Frédéric Becbédé, je crains que cette émission ne franchisse un nouveau cran dans l'hagiographie, puisque je crois savoir que lui aussi est un peu fan de vous. Il cultive en tout cas un côté festif, noctambule.
La nuit est mon royaume.
Oui, l'autre jour, il est même rentré chez lui à minuit 15. Un ouf, un dingue, un déglingo de la teuté. Bonjour Mathieu Charrier.
C'est le groupe Corona.
Oh, oui, oui. C'est vrai. Ça, c'était pas écrit par contre.
Très, très, très dangereux ce morceau.
Il devrait être interdit aujourd'hui.
Attention.
Bonjour. Mathieu, aujourd'hui, vous nous parlez des secrets de Barry Lyndon.
Oui. Bah voilà, vous avez tout dit.
Bah essayez d'en dire un peu plus.
Bah non, mais on va raconter les coulisses de la fabrication du film. Comment au début ça ne devait pas du tout être ça, comment ça ne devait pas être cet acteur-là. Enfin voilà.
Ah bah ça déjà je ne le savais pas.
Bah voilà.
Moi j'ai déjà appris un truc que nos auditeurs je ne sais pas, mais moi oui. Alors, les secrets de Barry Lyndon ou la bouleversante disparition des cachalots et des mignons petits phoques, bien sûr. Quel sujet l'emportera ? Réponse juste avant 18h. En attendant, reprenons le fil de notre discussion avec Frédéric Becbédé et posons-nous la question : le rire est-il trop présent dans les médias en 2020 ? On est allé vous poser la question.
Je pense qu'il faut ricaner. On a tendance tout le temps à mettre les politiques sur un piédestal. Ils sont risibles, comme nous on est risibles tout le temps. Et du coup, bah, moi je trouve que c'est bien.
Non, c'est bien d'être... De titiller, ouais, c'est bien de titiller.
Je suis pas contre l'humour, je suis pas contre les humoristes, bien au contraire. Mais bon, s'il y a trop dans une émission, on n'écoute plus le gars qui parle, on écoute l'humoriste.
Non, mais il faut qu'il y ait des humoristes. Hein. Parce que de toute manière, là, on est dans une période où c'était mieux en 1980, hein, avec Stéphane Collaro. Voilà. Oui, c'était très bien. Bah, oui. Ah, les Coco Girls, tous ces trucs-là, là, c'était génial. On rigolait.
Voilà.
Les Coco Girls, ça, c'était un rire de qualité.
Ça, c'était, bien sûr.
Mais vous le citez, le Collaro Show dans le livre.
Bah oui, parce que c'était un peu la première fois qu'il y avait des caricatures, des marionnettes, quoi. Et puis ensuite, il y a eu les Guignols.
Alors, parlons-en des Guignols, parce que moi, j'adore votre livre, je suis d'accord avec votre propos, mais je suis un enfant des Guignols. Ouais. Et donc, c'est difficile, j'ai l'impression d'être devenu schizophrène à vous lire. C'est-à-dire que je ne peux pas renier ces années où j'aimais bien regarder les Guignols. Et c'est vrai qu'en même temps, une partie de notre pensée politique se forgeait,
ouais,
notamment la popularité de Chirac,
de
qui était
Chirac,
peut-être
due, on en a dit, présidentielle.
À sa marionnette qui était sympathique. Et c'est ça que vous dénoncez aussi dans le livre.
Oui, et d'ailleurs, je n'étais pas le seul. Le premier à avoir parlé de ça, c'était Mishka Assayas, qui avait parlé du pouvoir grandissant des Guignols. Et quand j'avais lu son article, j'avais été très, comme vous, désarçonné. J'étais aussi très fan de, et sans me poser de questions.
Oui, c'est ça, sans se poser de questions.
Et tout d'un coup, on se dit oui, c'est non seulement ils ont eu un moment un pouvoir, presque un pouvoir totalitaire, je veux dire, au sens où on ne pouvait pas tellement répondre aux marionnettes des Guignols. Bah, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui avaient leurs marionnettes souffraient de ça, évidemment. Parce qu'on croit quand même que on identifie un peu la marionnette à la personne humaine.
Et surtout sur la longueur, au fil des saisons, des années, on identifie.
Oui, mais enfin, la satire a toujours fait partie de la société, et tant mieux. Enfin,
oui, vous voyez, on peut c'est pas... une tradition française depuis Rabelais, Molière, bien sûr. Non, mais ce que je pense, c'est juste que quand il n'y a rien d'autre en face, quand il n'y a pas un pouvoir fort, un pouvoir plutôt impuissant ou qui lui-même ne sait pas très bien où il habite, à ce moment-là, ça décrédibilise la parole politique et on se trouve face à un danger qui est justement d'avoir des comico-populistes ou des populistes tout court qui arrivent au pouvoir.
La course au LOL, la ruée vers le PTDR va-t-elle nous mener dans le mur ? Frédéric Becbédé nous parle de son dernier roman, L'homme qui pleure de rire, jusqu'à 18h.
Europe 1.
Encore un teasing, youpi ! Désolé Fredo, je dois faire le job. Amis auditeurs et auditrices, surtout n'éteignez pas le transistor, une belle tranche de rire vous attend. Après une série de réclames, vous aurez la joie de retrouver la chronique environnement de la toujours rieuse Anne Le Gall, une femme qui garde le sourire en toutes circonstances, car chez les Le Gall, on est optimiste depuis 7 générations. Déjà sur le Titanic, son arrière-grand-mère Ginette Le Gall s'exclamait
« Il coule, c'est cool !»
Alors à tout de suite pour un papier rigolo sur la disparition des cachalots.
16h, 18h sur Europe 1, L'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Merci d'écouter L'équipée sauvage, 2 heures d'infotainment comme les aime notre invité du jour, Frédéric Becbédé, qui au contraire s'agace de cette dictature du rire dans son dernier roman, L'homme qui pleure de rire. Aujourd'hui, nous lui avons donc concocté un programme sur mesure. 2 heures garanties sans vannes sur les Balkany, sans jeu de mots foireux sur le coronavirus et sans l'intervention soi-disant corrosive en fin d'émission d'un chroniqueur satirique barbu en Stan Smith qui aurait débarré son sujet par « Ouais, ben Frédéric Becbédé, c'est le Boris Vian de 2020, son dernier roman aurait pu s'appeler « J'irai cracher dans la soupe ». Et en lisant le bouquin, je me suis dit d'ailleurs, heureusement que Becbédé n'a pas chopé le coronavirus parce que sinon... Je vous rassure, Frédéric, pas de ça chez nous. Non, mon truc à moi, c'est l'ubérisation. J'ai vu que ça marchait pour les taxis, pour les pizzas, alors je me suis dit, pourquoi pas pour les journalistes. D'où cette compétition un peu foutraque chaque après-midi où j'assure la dérision et eux le font, histoire qu'on se couche quand même un peu moins bête. Voici notre troisième concurrente du jour, Anne Le Gall. Une journaliste qui devrait vous plaire, Frédéric, car à rebours de cette déconnade permanente qui gangrène les médias, elle a inventé un nouveau concept d'humour, un humour qui donne envie de pleurer.
C'est très bien.
Comme avait pu le constater Jérôme Commandeur il y a quelques semaines.
Voter pour les plantes, c'est une bonne façon de ne pas se planter.
Ouais, c'est marrant parce que c'est très rare une vanne qui rend triste.
Cet après-midi, vous exaucez le rêve que forme Frédéric Becbédé, page 227 de son roman. Il avait un rêve, page 227, d'une chronique larmoyante. Et écologique.
Alors voilà, nous allons effectivement parler de la disparition des cachalots et des oiseaux. Ils vont mal.
Visiblement, Charlie n'a pas compris.
Il est légitime de leur donner la parole.
Ça, c'est quoi, un cachalot ?
Alors, non, ça, c'est la pie grièche à poitrine rose. Et en fait, il aurait fallu lui donner la parole avant, parce que c'est une archive. Le problème, c'est qu'on ne l'entendra plus. Le dernier couple de cette espèce a disparu et mort l'été dernier dans l'Hérault. C'était le dernier en France. Donc, on n'entendra plus ce son. De façon générale, un tiers des oiseaux ont disparu dans notre pays en 15 ans, victimes de l'urbanisation, victimes de la disparition des insectes, eux-mêmes victimes des pesticides. Et donc, c'est assez catastrophique pour la biodiversité.
On va tous mourir.
Et du côté des cachalots, baleines et autres dauphins, c'est aussi déprimant ?
Ouais, c'est pas brillant du tout. Alors certes, les baleines chantent toujours. Elles chantent évidemment pour s'orienter, pour s'accoupler. Elles peuvent produire 180 mélodies différentes. C'est vraiment une merveille de la nature. Mais elles n'ont plus le même chant qu'il y a 10 ans. Leur voix est devenue plus grave. Et certains disent que c'est à cause de l'acidification des océans. Les ondes passent mieux, donc elles chantent moins fort, elles chantent plus grave. Et tout ça, donc, c'est à cause du CO2 dans l'atmosphère. Concernant les dauphins... Alors, certains ne chantent carrément plus. 600 Pourquoi dauphins ont été, se sont échoués. On a trouvé des cadavres sur le littoral atlantique depuis le début de l'année. 600 depuis le début de l'année. Ils se rapprochent des côtes pour trouver de la nourriture. Et malheureusement, ils sont victimes des bateaux et des filets de pêche. Alors, les cachalots, quant à eux, ils ont été protégés de la chasse, avec succès. Aujourd'hui, il y en a 300 000 à peu près, mais pas protégés de la pollution. Et l'été dernier, il y a un cachalot qui a été retrouvé mort avec 100 kilos de plastique dans l'estomac, en Écosse. Ouais, ouais. Voilà, Frédéric Becbédé, vous vouliez une chronique d'une mélancolie épouvantable sur la biodiversité. Alors, je vous confirme, oui, d'après les chiffres du Fonds mondial pour la nature, 60% des animaux sauvages ont disparu en l'espace de 40 ans. Et tout ça à cause de nous. À cause de nous, les humains, on déforeste, on urbanise, on pollue.
Et je dirais plus spécifiquement à cause de la génération de Becbédé qui n'a rien foutu.
Oui, c'est oui. Exact,
et qui a fait de la dérision alors, au lieu de s'engager politiquement.
Voilà, et tout ça est de ma faute.
Oui, alors, et résultat, en fait, la disparition des espèces est 100 à 1000 fois plus importante qu'au temps des dinosaures. Alors, la chronique pourrait s'arrêter là. Voilà, on finit déprimé, mais mon objectif, Frédéric Becbédé, c'est pas de vous caresser dans le sens du poil jusqu'au bout. Je suis optimiste, moi. Donc, je vais quand même distiller quelques notes d'espoir, parce que la nature est résiliente. Et donc, quand on laisse la vie sauvage réapparaître, quand on la protège, ça fonctionne. Il y a des espèces qui ont réapparu, le lynx, le bison, les cigognes. Alors, pour finir, je vous offre quelques secondes d'immersion dans la nature brute.
C'est pas vous qui l'avez inventé, c'est le spa auditif. C'est Frédéric
Becbédé
qui l'a inventé
sur France Inter. Voilà, là c'est le Jura. On est dans le Jura. Et ces oiseaux-là chantent encore. Et il est encore temps de les protéger.
Je crois que la dictature du rire, ça va encore durer un petit moment. Parce que je vois Charrier qui s'est bidonné pendant toute la chronique. Et, oui. Et Eva Rock qui lève des yeux au ciel.
Non mais vous allez comprendre pourquoi après.
Pourquoi voilà.
Je pense que c'est intéressant comme expérience, le contraste tout simplement. Qu'on ne soit pas tout le temps en train de ricaner, mais qu'il puisse y avoir un truc un peu sérieux.
Bah ça, c'est le concept de notre émission, Frédéric.
Et surtout, ce qui est bien, mais c'est un compliment. Ce qui est bien, c'est que quand on n'essaie pas d'être drôle, souvent on est encore plus marrant. La preuve, il était mort de rire tout le temps. En entendant les baleines, en entendant les oiseaux, t'es plié en deux. Parce que dès qu'on dit fini de rire, interdit de rire, c'est là où on a plus envie de rigoler.
Oui. C'est vrai. Merci Anne Le Gall. Votre chronique écolo-larmoyante incitera-t-elle Frédéric Becbédé à voter pour vous ou bien au contraire, lui fait-elle déjà regretter ce qu'il a écrit sur l'omniprésence de l'humour ? Qui vivra verra, comme disait Huysmans ? Je ne sais plus. Prendre quelqu'un. Voilà bien une question qui, j'imagine, turlupine grandement notre invité, Frédéric Becbédé. Répondez très franchement, est-ce que vous en avez encore quelque chose à faire de ce que la télé nous propose ce soir ?
Ah non, parce que je consomme très peu les télévisions en direct. Enfin, je veux dire, oui, maintenant, je choisis les programmes un peu comme tout le monde. De ce point de vue-là, je ne suis pas complètement devenu un vieux con.
Elle non plus, elle ne regarde pas la télé, elle s'en fout, mais par contre, c'est son métier. Donc elle va quand même nous donner... Non. Rébellion. Rébellion, révolution dans cette émission.
Vous m'avez dit de ne pas bosser, alors pour une fois que je peux le faire, je l'ai fait.
Eh bien écoutez, on découvrira votre chronique ou pas, juste après ce que vous auriez voulu être, Frédéric Becbédé. C'est en tout cas ce que vous avez déclaré un jour à Libé, peut-être sous kétamine, je ne sais pas. Jean-Louis Aubert, du bonheur sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Frédéric Becbédé, on écoutait à l'instant Jean-Louis Aubert, dont vous avez déclaré que vous auriez voulu être lui. Vous confirmez ?
Oui, j'étais à un concert quand j'avais 16 ans du groupe Téléphone, Porte de Pantin, et toute la salle rêvait d'être Jean-Louis Aubert, évidemment. On avait l'impression que c'était un peu, ça pourrait être nous. Et évidemment, pas du tout, mais voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer après. Je lui ai dit, il a dit, bah non, tu ne seras jamais moi.
En plus, c'est bien lui de vous casser comme ça alors qu'il est adorable. René Bébédé, vous vous posez beaucoup trop de questions. Eva Rock, elle ne s'en pose qu'une. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ? Alors, c'est la question que vous posez habituellement, mais peut-être pas aujourd'hui.
Hier, vous me dites, ne prépare pas de chronique.
Mais oui, j'ai dit, on va faire une émission spéciale avec Frédéric.
Moi, je prépare
on va,
pas de chronique.
On va exploser
c'est très bien.
Le conducteur.
Bah, voilà. C'est intéressant.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait quelque chose ?
Eh ben, on parle de la vraie vie. Alors, comment ça va ?
Non, mais c'est vrai qu'on est d'accord pour dire que les séries et la télé, ça prend une part importante de nos conversations. Enfin, surtout les séries aujourd'hui, avec toutes les plateformes. Il n'y a pas une conversation pendant la soirée, on n'en parle pas. Donc, mon outil de travail, c'est. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pris Télérama, mais enfin, c'est le guide télé, quoi. C'est rien de plus.
Plutôt Télépoche que Télérama. En temps
ouais,
normal, hein.
Ouais, plutôt non, Télé 7 jours, hein, mon ancienne maison que j'aime bien et que je revendique. Et il y a une chose que j'aime bien chez vous, Frédéric Becbédé, c'est ce concept de spa auditif. J'adore ça parce que je trouve que c'est vraiment lié à ce que fait Mathieu, au travail que fait Mathieu, au travail qu'on fait en général à la radio. Et je me suis dit, on va tenter une expérience.
Okay.
Je vais vous lire en fait la grille d'une chaîne de télé d'aujourd'hui et vous allez essayer de trouver de quelle chaîne il s'agit. Je vous dis simplement,
ah oui, d'accord, pour
d'accord,
voir
les
couleurs.
Programmes.
De...
Alors, vous voulez bien faire le test ? Alors, vous allez fermer les yeux parce qu'il faut qu'on se mette en condition. On va essayer. 8h55, Zou. 10h40, Sam le pompier. 11h20, Zoé et Milo,
mais non,
les voyageurs du monde.
Gulli.
11h30, Martin Matin. 12h15, Anatole la tuile. 13h05.
Nickelodeon.
Zip zip.
Zip zip.
13h55. Sept nains et moi.
Attendez, on n'a pas donné le nom de la chaîne là.
Mais c'est des chaînes pour enfants. C'est une chaîne pour enfants.
C'est pas Gulli.
Loli Rock.
Non, il y en a plein d'autres.
C'est France 4.
Attends.
France 4.
Ah, mais oui, Mathieu.
Mais
a
ça existe encore France 4.
Mais oui, ça existe encore. Alors pas pour longtemps, mais écoutez. Ouais, sinon.
C'est devenu une chaîne pour enfants.
Mais
en fait.
Oui, bah, sauf qu'à 21h05, ils proposent Autopsie d'un meurtre. Bon, là, c'est beaucoup.
Là, d'enfants.
Les enfants sont couchés à cette heure-là. Voilà. Les enfants sont couchés.
Oui, mais les parents ne peuvent pas regarder France 4.
Est-ce que vous regardez des vidéos d'ASRM ? Vous savez ? Vous connaissez ASRM ?
Non.
C'est sur YouTube. Vous tapez ASRM et c'est des petites voix comme ça qui vous parlent. Ou ça peut être des petites gouttelettes d'eau qui tombent.
Et à quoi cela sert-il ?
Rien, relaxation.
À se sentir bien.
Ah oui. Et vous êtes payé quand même pour cette petite chronique.
Mais oui.
Bah, je ne sais pas, c'est vous qui allez
décider. Il faudra voir, je vois la direction qui nous regarde, ils n'ont pas l'air contents.
On va vraiment garder cette séquence-là ?
Bien sûr. Regardez. Ah oui, Mathieu Charrier, vous êtes complètement nul.
Mathieu Charrier n'a rien compris au concept de notre émission. C'est désolant,
vous
Mathieu.
Mais vous êtes
conventionnel,
mais
Mathieu.
Oui.
Voilà,
incapable de sortir
des
clous. C'est un bourgeois de la radio.
Complètement, alors que nous, Frédéric.
Il est encore dans les vieux schémas. Il faut avoir préparé son papier, lire son papier en ayant l'air cool. C'est fini,
c'est
tout
fini.
Ça.
On est en 2020,
mais
mon vieux.
Réveillez-vous.
C'était la merveilleuse chronique des baroques.
Europe 1.
C'est un de vos films préférés, paraît-il, Frédéric Becbédé. C'est aussi le thème de la plus folle soirée de votre vie.
On fait pas cette chronique-là, alors.
Pourquoi ? Mais non, on s'en fout.
Ah bah moi, je te la lance quand même.
Ah bah c'est Frédéric Becbédé qui choisit le thème de ma prochaine chronique.
Moi, je voulais revenir sur ce film, Barry Lyndon, qui est le thème d'une soirée, vous la décrivez dans votre dernier roman, L'homme qui pleure de rire, une soirée qui a été un tournant dans votre vie, la soirée Barry Lyndon que vous aviez organisée avec vos amis du Cacasse Club. J'ai envie qu'on en parle. Et il y a quand même un côté dictatorial dans cette émission, c'est moi qui décide.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission qui rigole, mais pas tout le temps. Car sous le vernis du LOL se cache une compétition fratricide où dans l'arène cruelle du studio Coluche, les meilleurs journalistes s'étripent chaque après-midi au service de votre culture générale. Un seul sera élu chroniqueur du jour, goûtant ainsi cette gloire éphémère de 15 minutes que nous promettait Andy Warhol. Notre invité, l'empêcheur de s'esclaffer en rond, Frédéric Becbédé.
Oui.
Eh, c'est l'expression de vous, elle est dans le livre. Et ensemble, on parcourt votre dernier livre en forme de pamphlet contre ce qu'on pourrait appeler l'humoristiquement correct. Ça vous va comme définition?
Oui.
Si on écoute Handel, on l'entend plus parce que j'ai été trop long... C'est qu'on va parler à présent d'un film culte, Barry Lyndon. Mais avant de parler du film avec Mathieu Charrier, s'il le veut bien, parce qu'il se fait désirer depuis tout à l'heure, on va parler du bal Barry Lyndon que vous avez organisé dans votre folle jeunesse, Frédéric. Du temps où on savait s'amuser. J'étais trop petit, j'ai pas connu cette époque-là.
Vous rêviez d'y être, Mathieu.
Je veux dire que ça fait rêver.
Les soirées, quand il n'y avait pas des smartphones pour prendre des photos, étaient différentes. Voilà.
On se lâchait plus.
C'est une soirée dont j'ai l'impression que je ne suis jamais sorti. À partir de ce soir-là, j'ai décidé d'avoir une vie qui ressemblerait à Barry Lyndon.
Parce qu'il faut rappeler un peu l'histoire de Barry Lyndon, effectivement, de ce jeune Irlandais qui rêve d'accéder à la haute société. Et donc, il y a ce bal, parce que vous n'en dites pas assez là sur le bal dans le livre. Il y a des détails quand même sur les déguisements. Et
oui, tout le monde était déguisé en tenue 18e, éclairage uniquement à la bougie et que de la musique classique pendant toute la nuit. Et en fait, à partir du moment où on accepte qu'il n'y aura que de la musique classique, eh ben, on danse exactement comme à l'époque. Et on devient aussi dingue que si on était dans une soirée électro.
Alors moi, Mathieu Charrier, j'aimerais que vous nous parliez et que vous nous révéliez les secrets peut-être de ce film.
Restons modestes, n'est-ce pas ? Non, déjà, ce qui est assez amusant de noter, c'est qu'au départ, à l'origine, Stanley Kubrick ne voulait pas du tout adapter Barry Lyndon au cinéma. Il envisageait un film sur Napoléon. À ce moment-là, il sortait du succès d'Orange Mécanique, du succès évidemment de la controverse. Ouais. Et il voulait faire donc un film sur Napoléon. Sauf que c'est un moment où il y avait un film sur Waterloo qui était sorti, qui n'avait pas du tout marché. Évidemment, un film sur Napoléon, ça coûte très très cher. Et donc, malgré Kubrick qu'il était devenu déjà, les studios n'ont pas voulu le suivre. Sauf que lui, il avait bossé des heures sur la documentation, etc. Donc il s'est dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça ? Il envisage un roman de William Makepeace, que vous connaissez sans doute, s'appelle La foire aux vanités. Pas possible. Et donc, il prend le deuxième roman qui lui tombe sous le nez de cet auteur-là, et c'est Barry Lyndon, c'est les mémoires de Barry Lyndon. Donc c'est comme ça que, par un peu deux ou trois truchements, on se retrouve à voir ce grand film qui aujourd'hui fait l'histoire du cinéma. Alors là, vous deviez me demander, Mathieu, dans le livre, c'est déjà une voix
évidemment,
qui raconte...
comme cette émission de particulière, j'ai oublié les feuilles. Donc je le vois captivé sans feuilles.
Mais vous allez voir, ça va être ma faute.
Et dans le livre, déjà, c'est une voix off qui raconte, dans le film.
Est-ce que, point d'interrogation, et c'est là que je vous répondais.
En plus, j'ai réussi à le dire.
Justement, voilà, puisque le livre... même quand il y a des notes, on se perd. Le livre, effectivement, si vous en rappelez, si vous l'avez lu, était raconté à la première personne, parce que comme je le disais, ce sont des mémoires de Barry Lyndon. Et je pense que le talent de Kubrick, c'est de se dire, moi, je vais le raconter à la troisième personne. Parce que ça met quand même une distanciation avec ce personnage qu'on va aimer, détester. Grâce à ça, si c'est jeu, s'il se raconte, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Dans son adaptation, Kubrick, il a aussi rajouté deux, trois moments. Il y a notamment, vous savez, le dernier duel. Ça n'était pas dans le livre. Ou la scène aussi, la conversation entre les deux homosexuels au bord du lac. Ça aussi, c'était pas dans le livre. Et je trouve ça amusant, parce que moi, le film, je l'ai vu il y a longtemps maintenant, et c'est des moments dont vous vous rappelez. C'est là aussi le talent d'un grand cinéaste, c'est de prendre des éléments d'un livre qui existe, mais de rajouter des scènes qui sont presque celles que vous retenez le plus finalement.
Et alors Barry Lyndon dans le film est incarné par Ryan O'Neill. C'est écrit pour lui ?
Pas du tout. À l'origine, il voulait, ça je l'ai redécouvert en préparant la chronique, il voulait Robert Redford dans le rôle de Barry Lyndon.
Ah bon ? Alors
Qu'avait donné son accord en plus. Finalement, ça s'est pas fait parce que ça a un peu traîné la mise en place et donc Redford était parti sur un autre film. Et Ryan O'Neill, qu'on a quand même pas mal oublié depuis, à l'époque c'était une des plus grosses stars américaines. C'était l'acteur le plus rentable, deuxième position derrière Clint Eastwood. C'est pas mal. Donc il prend Ryan O'Neill, sauf que le tournage se passe assez mal. Vous vous rappelez peut-être de la scène dans laquelle Barry, au chevet de son fils, larmoyant, enfin pleurant, etc., enfin à bout de nerfs. En fait, Kubrick, il lui a fait refaire la scène plus d'une cinquantaine
de fois. Il était vraiment
à bout de
nerfs.
Donc le mec était vraiment à bout de nerfs. Il en pouvait plus de cette scène. Et c'est comme ça qu'il pète complètement une durite et que ça donne ce résultat là aussi, dont on se souvient tous, et cette scène dont on se rappelle.
Et le film, qui aujourd'hui est devenu culte, on peut le dire, a marché à l'époque, au moment de sa sortie.
Alors, c'est un tournage qui a duré près de 200 jours, réparti sur 3 ans. Ça a duré des jours et des jours, ça a été très compliqué. C'est un tournage qui n'a pas coûté très cher, puisqu'il a coûté 11 millions de dollars. Il est sorti donc juste après la polémique liée à Orange Mécanique. Il faut savoir que Kubrick s'était senti menacé, parce qu'il avait été très critiqué pour Orange Mécanique. Au moment du tournage qui se déroulait en Irlande, il y avait un homme qui s'était introduit dans sa propriété qui était en Irlande pendant le tournage. Il avait complètement paniqué pour sa femme, ses enfants. Il avait rapatrié tout le monde. Donc le tournage était fini à Londres, le tournage du film. Et c'est un film qui a été détesté par la presse à l'époque, détesté par le public, qui n'a pas très bien marché. Il a rapporté moins de 10 millions de dollars, alors qu'il fallait qu'il en rapporte 30 à la Warner pour que la Warner rentre dans ses frais. Il a été nommé aux Oscars, il en a eu 2-3, mais pas du tout ce qu'on attendait. Il n'a pas eu meilleure réalisation, il n'a pas eu meilleur film. Donc là aussi, c'est toujours amusant de se rendre compte de ce qu'on retient de l'histoire du cinéma et de ce qu'on retient de, voilà, de, des films qui marchent ou pas à l'époque. Et ça reboucle un peu aussi toutes les polémiques autour des Césars, toutes les polémiques. Voilà, c'est qu'il y a un moment donné, on juge un film dans une situation, dans une époque, dans
peut-être
une société.
Peut-être qu'un jour, les Bronzés 3 sera à la Cinémathèque.
Je ne sais pas. Et vous vous rendez compte que 10, 20, 30 ou 40 ans plus tard, l'histoire du cinéma refait tout ça et vous retenez des films qui, à l'époque, n'avaient pas forcément été récompensés.
Et Baroque.
Est-ce qu'Orange Mécanique avait marché à
l'époque? Non, non plus. Non, mais alors, Orange Mécanique, c'est.
Il faisait bide sur bide, ce Kubrick.
Dans l'histoire du cinéma.
Je m'en souvenais pas.
Non, mais dans Orange Mécanique, c'est surtout que ça a révolutionné la manière d'imaginer ce que pouvait être le cinéma et de comment montrer la violence au cinéma. Donc ça a marché rien que pour ça. Mais c'est vrai que Kubrick, qui est devenu un très très grand cinéaste, qui faisait peu de films, qui a fait peu de films, il a eu du mal à chaque fois à remonter ses projets, à retrouver des financements, parce que c'était pas forcément des films qui marchaient aux yeux du grand public.
Mathieu Charrier,
oui.
Est-ce que votre chronique mérite les 3 points?
Ah ça,
vous ne savez pas le faire, hein, la petite voix.
Nous le saurons en fin d'émission.
Europe 1.
Dans votre roman, Frédéric Becbédé, vous dénoncez le côté mécanique, trop écrit de la plupart des émissions radio. Vous avez raison. Là, par exemple, je dois annoncer la rubrique culinaire. Mais si, en fait, au fond de moi, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était d'écouter Iggy Pop, par exemple. Comme ça, sans raison.
Eh ben oui. Voilà.
Et sans aucune justification. Vous
écoutez
notez
les paroles.
No fun.
No fun.
Effectivement. Les polyglottes auront compris.
Mais moi, dans le conducteur, je vois pas qu'on écoute Iggy Pop, en fait.
Ben non, parce qu'on vous l'a dit, on fait n'importe quoi aujourd'hui.
C'est ça qui est intéressant.
Place à la liberté.
Voilà.
On parle tout le temps en même temps.
Mais
fait,
bien sûr, libérez-vous de ce carcan totalement, de ces vieux schémas radiophoniques. Ah, tiens, je te lance, et puis toi, tu fais la rubrique, et puis tiens, là, il y a une question qui arrive, qui était déjà écrite. Merde.
Enfin, on fera quand même la recette d'Olivier Pouls, rassurez-vous.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Ne soyez pas étonnés si aujourd'hui, exceptionnellement, je ne rappelle ni le nom de l'émission que vous écoutez, ni le nom de la radio sur laquelle vous êtes, et si je n'ouvre pas cette séquence par un extrait de Papy fait de la résistance, car il y a quelques mois, j'ai lu un livre que je vous recommande chaudement aujourd'hui, L'homme qui pleure de rire, où Frédéric Becbédé dénonce la dictature du rire et l'infotainment généralisé. Ces émissions où l'on mélange l'info et l'humour sous prétexte qu'il faut rire à tout prix et de tout, il dénonce aussi ces chroniqueurs ou animateurs qui parlent à toute berzingue et ponctuent leurs textes de sons décalés pour masquer l'indigence de leurs pensées.
Il ne faut pas avoir honte d'être gay.
Bref, me reconnaissant assez dans ce porté flatteur, j'ai passé un petit coup de fil à Frédéric et miracle, il a accepté de venir. Je vous en remercie, Frédéric.
Je peux partir maintenant, s'il vous plaît.
Frédéric, vous écrivez pour le déplorer. Aujourd'hui, la drôlerie est devenue obligatoire. Pour se figurer ce qu'est l'humanité dans les années 2020, il faut fermer les yeux et imaginer une foule de 8 milliards de personnes mortes de rire, littéralement entassées par terre, se gondolant. Il faut visualiser le Titanic qui coule avec, à la place de l'orchestre, un comique qui entame un numéro de stand-up. Hé les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vachement humide ici, non ? Ça, c'est la dérision permanente que vous dénoncez, et c'est quand même bien vu.
Oui, je suis d'accord avec cette citation.
On parlait tout à l'heure, vous avez parlé de manière assez virulente des Césars, vous nous avez livré votre avis sur la prestation notamment de Florence Foresti. Vous êtes aussi cinéaste, il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Moi, j'avais bien aimé votre premier film, L'amour dure 3 ans, et vous me disiez en antenne qu'un deuxième film était dans les tuyaux.
Oui, alors le deuxième film est déjà sorti il y a quelques années.
Non,
c'est l'idéal. C'est un peu triste parce qu'il n'a pas eu beaucoup de spectateurs et notamment pas vous, visiblement.
Moi, visiblement, je suis peut-être passé à côté, effectivement. Mais le troisième est dans les tuyaux.
Le troisième, je travaille sur un projet là dont je ne peux dire ni le titre ni le casting, mais j'aimerais bien le tourner cette année.
Mais alors attendez,
c'est une non-info.
Si cette année, vous avez déjà le thème quand
oui,
même.
On avance bien, oui.
Mais le thème ne serait pas le même que le livre ?
Ben oui.
Un petit peu, même complètement.
Ben complètement, ce serait l'adaptation de ce roman.
Livre.
Oui, je travaille sur ce sujet.
Mathieu Charrier.
C'est une leçon de journalisme ce que vous venez de faire. Parce que vous avez tiré une info alors qu'il ne voulait pas la donner.
Non, c'est vrai.
Mais
c'est
qui brume sur les bottes, lui.
Non,
mais
non, je suis en retard dans le classement. Il est prêt à tout pour décrocher mon point. Un mot peut-être juste du... Ah pardon, Eva Rock.
Ah non, non.
Si, allez-y Eva, vous avez envie de parler.
Non, c'est parce que je ne vous ai pas encore dit ce que je pensais de votre livre.
Ah, mais
je voulais quand même dire un mot. Parce que c'est vrai qu'on parle depuis le début de l'émission sur la dictature du rire, etc. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas que ça. Et j'ai beaucoup aimé ce livre aussi pour tout le reste, c'est-à-dire ce que vous racontez sur l'insouciance, sur la légèreté, sur le respect de l'autre qu'on n'a plus forcément. Alors, évidemment, c'est lié au rire, mais pas que ça. la nostalgie d'une forme d'énergie que vous aviez, qu'on a tous et qu'on perd au fur et à mesure. Et puis ce démontage en règle de ce que vous étiez, de ce que vous êtes encore aujourd'hui, et puis le symbole de l'époque que vous avez vécu. Et je trouve que c'est aussi intéressant pour ça, ce livre, et je tenais à le dire, parce qu'il n'y a pas que la critique des humoristes de la radio concurrente et non moins amie. C'est pas que ça. Je trouve que c'est très réducteur de ne retenir que ça.
Oui, voilà. Mais c'est pas ce qu'on a dit Eva pendant l'émission, parce que c'est la critique du rire de France Inter, on va les citer, mais de nous aussi, de toutes les radios,
bien sûr.
La société dans sa totalité.
Mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que une critique du rire.
Non, il y a aussi un bel autoportrait de Frédéric Becbédé dedans.
Oui, mais oui.
C'est assez intéressant. C'est vous êtes devenu un grand écrivain, vous avez réussi votre vie, mais est-ce que vous auriez voulu être une rockstar, par exemple? Enfin, vraiment, c'est un regret que vous avez?
Ça doit être assez excitant d'avoir un retour sur son travail immédiat. Voilà, quand on écrit, c'est malheureux, mais c'est très rare. Une fois, j'étais dans un train et j'ai vu une personne qui lisait et qui se marrait en lisant un de mes livres. J'étais très content. C'est la seule fois où j'ai eu un retour sur mon travail comme ça en direct. Voilà. Mais mon projet, ça a été plutôt comme Bret Easton Ellis ou comme Houellebecq, d'essayer que les écrivains aient une vie qui soit pas complètement le contraire de celle d'une star du rock. Après tout, de faire que les écrivains prennent aussi cette place dans les médias, qu'ils puissent être des gens qui soient spectaculaires ou qui soient arrogants ou qui soient excentriques. Vous voulez d'autres adjectifs ?
Non, mais ce qu'on comprend pas dans le livre, personnellement, ce que je comprends pas, j'arrive pas à déterminer si vous êtes nostalgique ou pas nostalgique, si vous êtes vieux con ou irrésistiblement branché. J'ai du mal à comprendre si vous avez le remords d'avoir quelque part dilapidé votre vie en ne faisant pas des choses plus importantes entre guillemets pour la société,
oui.
Ou si c'est juste une posture et qu'en fait vous êtes très content d'avoir été un écrivain plutôt brillant.
Non, je suis nostalgique. C'est vrai, je suis nostalgique et si je dois choisir entre vieux con et jeune branché, je pense que la vie a choisi pour moi.
C'est une belle réponse. Alors vous allez voir là, en termes de transition pourrie. Alors mon cher Frédéric, comme vous vivez dans le Pays Basque, bon déjà on ne sait pas pourquoi, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un des plus grands plaisirs dans la vie, c'est la bouffe. Or c'est l'heure de commencer à penser au dîner avec notre maître queue. C'est comme ça qu'il veut que je le présente. Ça fait grimper sa cote sur Tinder. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour Frédéric Becbédé.
Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce soir Olivier?
Ben vous savez, Frédéric Becbédé ayant déclaré que s'il n'avait pas été écrivain et auteur à succès, il aurait bien aimé être garçon boucher.
Comme moi. Enfin, femme boucher. Non, ouais, c'est pas vrai.
Je vais dire, moi aussi, ça m'aurait pas dérangé. Et vous, Mathieu, non, en garçon boucher?
Moi, je préfère consommer, moi.
Non, parce que je vous ai
découpé, c'est compliqué pour moi.
Je vous ai préparé un petit quiz, justement, boucherie, pour savoir où vous en êtes à ce niveau-là.
Alors, tous les véganes qui se sont évanouis. Là,
on a perdu beaucoup d'auditeurs, là.
Je vais vous donner des noms et vous allez me dire boucherie ou pas boucherie.
Est-ce qu'on
peut le trouver ou pas dans une boucherie?
Alors,
on va jouer avec Mathieu et Eva. Une cerise.
Oui.
Ça doit être une pièce. Ah non, non.
Ah non,
non.
Ah, c'est une fraise.
Non. La pomme.
Non.
La pomme, oui.
Oh,
ah, la pomme.
Oh, je suis nul.
La pomme
du riz de veau, c'est la partie ronde du riz de veau. La poire.
Oui, ça c'est une pièce de bœuf.
Exactement, c'est une pièce de bœuf.
Oh, une fois, j'en ai même mangé une avec vous.
C'est délicieux. La sardine.
Non.
Si. Ah non.
Non.
Mauvaise réponse. Vous l'avez noté qu'elle a une mauvaise réponse, Eva.
Le merlan.
Ah bah oui.
Le merlan,
oui.
La mouche.
Non.
Et le merlan, c'est quoi, en fait ?
Le merlan, c'est aussi ce qu'on appelle une pièce du boucher qui se trouve à l'arrière de l'animal. Assez intéressante, pas trop chère et plutôt goûteuse.
Et de bœuf aussi ou...
Oui, de bœuf aussi. D'accord. Et alors une dernière, l'araignée.
Ah oui, l'araignée, c'est trop bon. C'est trop bon.
Alors dans toutes ces
pièces... Vous n'avez pas dit qu'il avait gagné le quiz, c'est moi qui ai gagné.
Vous avez gagné votre poids en côte de bœuf.
Oh 82 kilos. Moi un peu plus.
Et voilà. Et alors, il y a un morceau, je ne sais pas si Frédéric le connaît, qui s'appelle... La surprise, qui est pour moi le top du top. Vous allez demander, vous mettez à genoux devant votre boucher et vous lui demandez qu'il vous donne la surprise. C'est un tout petit muscle qui est à l'avant de l'animal.
Ça dépend du boucher, mais j'ai peur qu'il se passe autre chose si vous mettez à genoux et que vous demandez une surprise. Olivier, franchement,
mais non, normalement, dérape, hein. Il va dans l'arrière-boutique et il vous ramène...
On avait dit mollo sur l'humour aujourd'hui, je crois que vous y allez franco, mon vieux.
Il vous ramène une petite pièce qui est hyper tendre et que vous allez simplement poêler.
Ah oui.
Et vous allez simplement la poêler dans une poêle très chaude, avec un tout petit peu de beurre, un peu de matière grasse. Et vous allez l'arroser pendant 2 minutes de chaque côté. Et ensuite, vous la laissez reposer, parce que ça, c'est très important dans la cuisson de la viande. Le temps de repos, au moins 10 minutes dans un four très tiède, de manière à ce qu'elle se détende bien.
Au moins 10 minutes entre chaque surprise, c'est le temps de repos nécessaire, normalement, pour ne pas recommencer.
Mais c'est pas...
Exactement.
Si je peux intervenir en disant un truc, en posant une question un peu intelligente, c'est quoi? C'est du bœuf aussi?
Oui,
surprise.
C'est du bœuf, c'est ouais, un tout petit
c'est de la
muscle
bonne viande, Eva.
Qui lui est à l'avant du bœuf. C'est un muscle qui ne travaille pas, donc il est vraiment tendre. Et puis surtout, on insiste, on poivre au dernier moment.
Oh, vraiment, poivrer au dernier moment.
Arrêtez.
Si vous poivrez trop tôt, la surprise est gâchée.
Mais alors,
et ça retombe comme un soufflet. Merci Olivier Pouls.
Attendez, j'ai encore une question.
Qu'est-ce que vous avez comme question?
Est-ce que c'est très cher?
Non, c'est pas très cher.
Voilà.
Mais il y en a très peu. Alors il faut vraiment les demander au boucher parce qu'en général, ils se les gardent pour eux.
Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1.
Europe 1.
Dans une vie, il y a des virages qu'il ne faut pas rater. Pour notre invité Frédéric Becbédé, c'était la soirée Barry Lyndon au Palace en 86. Pour nos journalistes en compétition, c'est le vote final de l'équipée sauvage. Qui repartira coiffé de la précieuse couronne? Cette émission se terminera-t-elle selon les codes habituels ou bien exposera-t-elle comme une piñata radiophonique sous les coups de boutoir de Frédéric Becbédé? Pour nous calmer, 5 secondes de spa auditif. Oh putain, c'est bon.
L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Une nouvelle édition de l'équipée sauvage s'achève, mais pas n'importe laquelle, puisque c'était aujourd'hui notre spécial. Et si on foutait l'émission en l'air, car Becbédé a raison dans son dernier bouquin, trop de rire tue le rire. À l'heure de rendre l'antenne, nous allons donc expédier rapidement les formalités d'usage, séquence du quitte ou double, vote, remerciement, pour enchaîner rapidement sur cette troisième mi-temps que nous avons promis à Frédéric et qu'il a convaincu de venir.
On va se faire une jolie petite partie, garçon, fille, de genre mélange.
Eh oui, nous avons fort à faire. Alors pas de quitte ou double, aujourd'hui nous avons droit au but. Frédéric Becbédé, on a parlé de votre livre, de Barry Lyndon, du nombre de calories brûlées durant l'acte sexuel, des cachalots menacés d'extinction. Quel sujet mérite de l'emporter? Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Ah pardon.
Vous ne vous y attendez pas.
Non, je m'attendais pas à ça. Donc
c'est pas comme si elle faisait ça tous les jours à la même heure.
Je sais pas.
De toute façon, il n'y a pas de surprise.
Il n'y a pas de surprise, c'est vrai. C'est Jérôme Lacroix.
Les intitulés. Dès que le mot sexe figure dans un intitulé, c'est vrai que ça fait vendre.
Mais tout de même, il y avait ma chronique aussi. Elle n'est pas en compétition, la mienne?
Eh bien, parce que je ne l'avais pas mise sur Twitter. Je suis désolée. Parce que vous m'avez surprise.
Eh oui, on a été désarçonnés.
Je le reconnais, mais c'est effectivement Jérôme Lacroix qui l'emporte.
Mais vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot.
Les statuts de ce concours sont pas du tout déposé. Alors, chez
pas
un
du tout.
Notaire,
non,
alors, Maître Enoki en régie, effectivement, dort un jour sur une, ne surveille pas vraiment ce qui se passe. Alors, c'est l'invité qui décide ici. Qui mérite d'être élu chroniqueur du jour, selon vous, Frédéric Becbédé?
C'est Anne Le Gall, parce que ce qu'elle a fait m'a ému aux larmes et en même temps a provoqué un fou rire autour de ce plateau.
Donc
je crois que c'est intéressant parce que ce qui est beau dans une chronique et en général dans l'humour, c'est le contraste.
Encore
c'est qu'on puisse rire de choses tristes et qu'on puisse pleurer de choses joyeuses.
Mais ça me laisse perplexe quand même que je vous fasse pleurer, je fasse rire Mathieu Charrier. Mais en tout cas, c'était sincère et effectivement, la biodiversité s'érode et ça nous concerne tous.
La biodiversité s'érode, n'importe quoi. Mesdames et messieurs,
attendez, elle a fait un remerciement un peu comme au César. Soit un prix,
elle
fait un discours. Écoutez, je remercie toute mon équipe, le cachalot, le maire, le rieur.
C'était la 127e journée de l'équipée sauvage. Bravo à Anne Le Gall qui l'emporte. On remercie notre invité Frédéric Becbédé. Et on vous recommande surtout son roman L'homme qui pleure de rire chez Grasset, même s'il désigne une autre radio. On s'y est un peu retrouvé dans l'équipée sauvage. Et hélas, il y a beaucoup de vrai. Merci Frédéric d'avoir joué le jeu.
Merci.
On se quitte en écoutant les Strangles. Les Strangles. Quitte à vous faire plaisir, autant vous faire plaisir jusqu'au bout.
Ah oui.
Merci également à mes équipiers du jour. Eva Rock, Anne Le Gall, Jérôme Lacroix, Mathieu Charrier, votre fan numéro 1, Nicolas Caron et Olivier Pouls. L'équipée sauvage revient demain 16h.